Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 15e épisode, épisode numéro 14. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous?
Bonjour, Arnaud, je travaille à Clever Cloud et je m'occupe par exemple de la console, de différentes intégrations d'add-ons et un peu d'infra.
Voilà. Et un peu de peer-to-peer, on en parlera tout à l'heure.
Bien sûr.
Je suis aussi accompagné de Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine Grégoire, qui êtes-vous?
Bonjour, je suis Pierre-Antoine Grégoire et je suis happening permanent chez Clever Cloud.
Merci, et je suis aussi accompagné d'Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous?
Bonjour à tous, donc Alexandre, je suis dev chez Clever, je touche un peu à tout, et même aujourd'hui, on va parler peut-être de front si on a le temps. Comme quoi?
Yes, on va prendre le temps.
Mais Hubert n'est pas là.
Eh oui.
Yet, on en profite pour se faire des bisous à tous les gens en catastrophe naturelle en ce moment, c'est-à-dire la Californie, tout le Maghreb, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des pluies torrentielles, enfin, c'est un petit peu l'enfer en ce moment. Anyway, on va commencer avec des gens qui se portent très bien, puisqu'on va parler de Snyk. Snyk, si vous ne connaissez pas, c'est une boîte qui est spécialisée dans la sécurité. Je pense que c'est hashtag DevSecOps, pour ceux qui suivent. Ils ont des outils de sécu pour les développeurs. Ils font de la sécu pendant le processus de développement, pas après, c'est pas des pentests, c'est pas des trucs qui arrivent à la fin de la bataille, c'est vraiment... On accompagne le développeur et la culture de dev à faire dans la sécurité.
C'est de l'observabilité, quoi.
Ouais, ouais. Enfin, c'est... Non, c'est... Bah, disons que l'observabilité...
Quelqu'un qui m'a dit ça, récemment.
C'est ça, je vois pas qui tu parles. C'est probablement pas moi, d'ailleurs. Et moi, ce qui m'a impressionné là-dessus, c'est pour ça que j'ai mis le lien, donc ils ont annoncé avoir levé 200 millions cette semaine, en sachant que, si vous connaissiez, vous avez suivi, ils avaient déjà levé 100 millions en septembre. Donc, les mecs ont fait 300 millions dans la même année. C'est pas mal.
Ils dépensent bien.
Ouais. Ils ont annoncé recruter 100 personnes. Donc voilà, s'il y a des gens qui cherchent du taf en ce moment en remote, je crois, c'est remote friendly. Pour essayer chez Snyk. Ils font pas mal de trucs aussi en tout ce qui est sécu, conteneur, Kubernetes. Enfin, ils arrivent à faire des checks de sécu sur des fichiers YAML, ce qui est toujours bien.
Pourtant, personne ne fait YAML aujourd'hui, je ne vois pas.
S'ils peuvent aussi valider la syntaxe, ça fera gagner du temps à tout le monde.
Ouais, c'est ça. En fait, je ne sais pas si c'est un linter ou si c'est un truc actif. Bref, du coup, à part des trolls velus, vous avez des choses à dire là-dessus ou...
Rien de plus.
Bah, moi, ça me choque pas trop, vu que. Enfin, avec tout ce qui est Covid, etc., je suppose qu'il y a beaucoup plus de problèmes de sécurité, en tout cas, qui peuvent apparaître. Et... En vrai, c'est peut-être que c'est une bonne période de business pour eux, je suppose.
C'est ce que le mec dit effectivement dans l'article, il dit que finalement le Covid pourrait être un gros accélérateur de business, et effectivement l'ambiance sécu avec toutes les failles à répétition de Zoom, ça a dû faire un peu flipper les gens dans l'inconscient collectif.
Ouais, donc, il doit y avoir un switch aussi vers des solutions cloud, un switch vers des solutions d'accès depuis l'extérieur qui sont habituellement utilisées par un minimum de personnes là, qui sont utilisées par la majorité, qui font que le scope de sécu il change quoi.
Complètement, c'est aussi ce qu'ils disent, le succès du cloud native les aide beaucoup, et c'est vrai que comme ils font ils refont des recherches de failles de sécu dans les conteneurs, dans Cube, etc., effectivement, ça marche bien pour eux. Et donc, pour ne pas faire, pour ne pas parler toujours des mêmes, je précise qu'il y a Scream en France qui fait des choses comme ça, qu'il y a Foxtrace, qu'il y a plein d'autres boîtes cool qui font de la sécu en France, donc n'hésitez pas à regarder aussi. Deuxième lien, un autre truc qui m'a choqué, un peu toujours dans le même sujet, Warren Buffett, connu pour ses positions de milliardaire un peu safe en termes d'investissement, vient de lâcher 570 millions de dollars dans Snowflake. Snowflake, c'est la cloud data platform, j'allais dire à la mode, ça fait un moment qu'ils sont à la mode quand même. Et ça fait vraiment que ça se passe bien pour eux. Et là, ça a un peu fait halluciner tout le monde parce que sur ce tour-ci, il y a Marc Benioff, le patron de Salesforce, et Warren Buffett. Et donc, c'est la première boîte tech de Warren Buffett. Et du coup, tout le monde est genre, ah, c'est ouf et tout. Donc, tu sens un peu la profession autoréalisatrice arriver parce que du coup, il y a Warren Buffett qui a mis du blé dedans. Du coup, c'est cool. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, j'ai pas testé Snowflake. Je vois pas trop non plus. Bon.
Voilà.
voilà.
Point. Eh ben, si vous avez un avis sur Snowflake, les commentaires, n'est-ce pas?
Yep.
Voilà, voilà. Enfin, moi, ça m'a surpris. En bien. Tout le monde disait qu'il allait y avoir une bulle et y avoir une Buffett qui arrive et qui fait « Ah, 500 millions !»
Et après, avec le Covid, un peu pour faire écho d'ailleurs à ce dont vous parliez sur la vallée aussi et sur les investisseurs et ainsi de suite, le fait que les gens, les réseaux se fassent plus et ainsi de suite, on sent que ça se fait quand même sur des choses assez safe. Et ça se demandait même sur ce qui s'est passé sur Snyk, si c'était pas déjà quand même... En gros, s'ils réinvestissent pas sur des trucs qui étaient sur le tour précédent, tu vois, parce que le tour actuel, à mon avis, ça a pas été plus très exploratoire, hein, du fait du manque de contact.
Alors je connais pas leur modèle commercial, mais tu sens aussi que les gens se concentrent sur du SaaS ou sur des choses qui font déjà de l'argent. Pendant très longtemps, les gens mettaient de l'argent en fonction de la quantité d'users, même si ces users n'étaient pas ne rapportaient pas d'argent. Là, ils ont des positions beaucoup plus pragmatiques de se dire on va mettre du blé chez quelqu'un qui fait déjà du blé beaucoup. Donc c'est peut-être ça aussi. Anyway, lien suivant, on change complètement. On parle toujours un peu d'argent, mais de façon un peu différente. Il va y avoir des add-ons certifiés dans la marketplace de Firefox, si j'ai bien compris, Arnaud.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est Mozilla qui a annoncé ça. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous fournissez un add-on sur la plateforme d'add-on Mozilla, en fait, votre add-on est soumis à une review, comme des applications dans les stores ou autres. Et généralement, en fait, ces reviews sont faites par des humains. Alors, je suppose qu'il y a quand même des checks automatiques, mais c'est quand même fait par des humains. Et bah, ça coûte forcément de l'argent, puisqu'il y a beaucoup d'add-ons, il y a beaucoup de reviews à faire, et ils proposent, c'est une proposition, ils mettent en place pour l'instant quelque chose qui permet en fait aux développeurs de payer un certain prix pour que l'add-on soit forcément review par un humain, apparemment, et qu'il ait en effet un espèce de petit certificat comme quoi il a bien été review, qui correspond bien aux guidelines qu'il faut pour écrire machin, enfin l'add-on, etc. etc. quoi.
C'est une forme de modération a posteriori en plus.
Ouais, voilà. Il y a ça, il y a aussi la partie, si jamais je crois que tu payes un peu plus, il y a une autre option dans ce package, c'est que tu peux en effet faire en sorte de mettre en avant ton add-on en fait sur la page par exemple d'accueil ou peut-être qu'ils trouveront d'autres techniques après, mais voilà, genre c'est en fait il y a une espèce de modèle de paiement qui se met en place autour des add-ons pour que soit ton add-on soit accepté plus rapidement, je sais pas, soit
il y a deux choses en fait. T'as le côté certifié et t'as le côté faire la promo de ton add-on sur la page principale en faisant sortir ton add-on plus souvent. Ce qui, moi, me posait la question du business model des add-ons. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent quand tu fais des add-ons? Parce que je pense que t'as pas le droit d'afficher de la pub sur ces trucs-là. Enfin, je pense pas. Je sais pas.
Non, mais tu peux avoir une version. T'as des add-ons avec des versions payantes ou des trucs comme ça. C'est-à-dire que tu peux devoir te connecter à un service particulier ou. Ça peut arriver, hein. Mais après, je pense qu'il y a aussi un truc. Vu le push qui est fait sur Chrome Chromium et dérivé avec Edge Chromium, avec j'ai déjà entendu le nom Edgeium aussi. Enfin, bref, toute cette galaxie de browsers basés Chrome, il y a quand même une grosse hégémonie qui se dessine. Et il y a tout ce qui est marché, entreprise et compagnie. Si tu n'as pas un moyen de ranker le plugin qui est fait par un gars dans son coin et qui le maintient peut-être depuis 3 ans, et un plugin où il y a des gens qui sont. Tu as vraiment des gens derrière. C'est compliqué. Est-ce qu'ils prennent la bonne manière de le faire? Je ne sais pas. L'idée de la certification, elle n'est pas forcément idiote. Après, l'idée de faire payer... si juste le fait de payer est suffisant, en fait, du coup, tu peux quand même avoir des trucs mal maintenus juste parce que c'est soutenu par une boîte qui...
C'est plus compliqué que ça.
Tu peux tracer des trucs, quoi.
En fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est que depuis l'été dernier, ils ont lancé un truc qui s'appelait les extensions recommandées, qui sont là systématiquement, non seulement en review, comme certains autres, mais là ils sont review et ils sont choisis par des gens chez Mozilla pour les mettre en avant. Ils disent vraiment que ça c'est un truc de qualité.
Ouais, c'est un choix éditorial, ça.
C'est ça, c'est vraiment un choix éditorial. Là c'est un test pour que un développeur autre qui n'a pas déjà une extension recommandée puisse avoir cette même validation, vraiment le côté badge vérifié. Pour autant, c'est pas forcément une garantie, mais moi de ce que j'ai compris, c'est si tu payes ça, tu sais qu'il y a vraiment quelqu'un qui va review humainement, qui va te faire des retours. Et il va y avoir plusieurs phases comme ça pour t'aider à vraiment le valider. Pour autant, t'es pas garanti. C'est pas parce que t'as payé que t'as le badge. D'accord. C'est juste que t'es sûr que ça va être validé. Ils vont t'aider à,
Oui, ça va, ça va pas être dans la soupe.
C'est ça. Et c'est une fois que tu as le badge, enfin que tu sois une extension recommandée ou que tu as utilisé ce truc de promotion add-on, que là, tu peux le mettre en avant sur la page d'accueil. Mm-hmm. Les autres add-ons ne peuvent pas être promus et ils auront une mention, ou ils ont déjà une mention qui dit attention, ça n'a pas forcément été review, on ne garantit pas que c'est safe, etc.
Ouais, c'est ça. Enfin, moi, par exemple, j'avais fait un add-on comme ça il y a quelques années, qui avait, je sais pas, entre 5 et 10 000 utilisateurs. Et globalement, en fait, bah, tu pouvais, je crois, soit le fournir en fait ton add-on et l'installer automatiquement via le fichier dans le browser, soit du coup, tu passais en effet par leur marketplace, et là, en fait, il fallait absolument, en tout cas à l'époque, que ce soit validé et que tu aies un process de validation en fait qui soit en place quoi. Et ça avait l'air quand même vachement manuel en tout cas, parce que des erreurs un peu cons, genre il te manquait des choses ou autre, c'était review, enfin genre on voyait bien qu'il y avait quelqu'un derrière, j'avais l'impression quoi. Mm-hmm. Mais maintenant peut-être qu'il y a aussi beaucoup plus d'addons, vu qu'ils passent aussi un peu leur temps parfois à casser les API d'addons et etc, bah peut-être pas évident. Mm-hmm. Mais enfin, moi, je trouve que ça fait un parallèle un peu avec les applications sur les App Store et tout, quoi. Au final, les App Store qui prennent un pourcentage sur... enfin, je sais pas, soit sur la publication ou autre chose, bah là, c'est un peu pareil, ça peut être un moyen pour eux d'avoir un revenu à côté, c'est pas... Je trouve pas ça si déconnant.
Non, je trouve pas ça choquant non plus.
Et alors après, juste... Enfin, je l'ai pas dit, mais globalement, c'est pour l'instant, ça, c'est un test, et le test se déroulera de fin septembre jusqu'à fin novembre, et après, ils verront si c'est voué à continuer sous cette forme-là ou pas, etc. Quoi. C'est vraiment
après, il faut voir s'il n'y a que des add-ons d'éditeurs qui remontent et
ouais, du aussi.
Coup, la personne qui le fait de manière isolée n'est pas complètement perdue dans les limbes.
Il faudra voir aussi le prix, etc. Quoi.
Ouais, c'est ça, en fait, il ne parle pas du tout du prix, donc on ne sait pas si c'est quelque chose qui est accessible à un petit dev dans son coin ou si c'est forcément quelque chose pour des boîtes. Quoi. Yep. Et vu que c'est un process manuel, j'imagine que ça ne va pas être un tarif vraiment de juste 5 euros accessible à tout le monde, j'imagine. Sinon, il ne ferait pas ça.
On peut supposer. Je ne me rends pas compte de la quantité de publishers qu'il y a sur la marketplace, mais on ne peut pas être contre le fait que Mozilla essaie de gagner du pognon sur Firefox.
Clairement. Ah oui, non, c'est sûr.
Clairement.
Pas. Ah, surtout en ce moment. Ouais.
Et donc, Arnaud, tu parlais de marketplace, ce qui nous donne au lien suivant. Puisque le lien suivant, on va reparler d'Apple et d'Epic Games, qui avait fait un Epic fail. Globalement, Apple a l'air de... Ouais, c'est assez mauvais, je suis pas très fier de ça. Apple a l'air de gagner son pari, et en plus, là, ils font encore plus mal à Epic.
Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas tout suivi depuis tout début. Enfin, j'avais suivi au début parce que c'était marrant, etc. Mais après, ça a pris d'autres ampleurs, en mode... genre, il y avait des poursuites judiciaires de la part d'Epic versus Apple, je crois, et la justice avait raison à Apple, etc. Enfin, bref. Un peu compliqué, et en effet, bon là c'est rapidement, mais suite à cette histoire, en effet, pour ceux qui ne savent pas rapidement, Epic Games en fait a ajouté un moyen de détourner, enfin pas de détourner, mais de faire payer les utilisateurs pour un service, donc pour de la monnaie in-game, sans passer par le service de paiement Apple, et ça c'est contre les guidelines Apple, et du coup Apple a supprimé l'application de l'App Store, supprimé l'application Fortnite en tout cas de l'App Store. Et ça fait un peu plus d'un mois maintenant, ou un mois à peu près. Et là, ils s'apprêtent, après avoir révoqué les accès de développeurs d'Epic Games, donc là, je crois que c'est sur tous les jeux Epic Games, là, cette fois-ci, ils enlèvent la possibilité pour les joueurs, ou les utilisateurs en tout cas de ces applications, de se connecter via le processus de login Apple. Donc, je ne sais plus si ça s'appelle, s'il y a un mot ou quoi. Mais enfin, voilà, du coup, c'est-à-dire que maintenant, Epic, en fait, a fait hier ou avant-hier un statement disant à tous les gens, bah, si vous utilisez le sign-in via Apple, il va falloir que vous... lier en fait votre compte à un email pour que vous puissiez vous connecter via email. Quoi.
Et vous allez probablement avoir un nouveau compte et vous allez perdre tout votre historique.
Non, je pense que là, ils vont quand même assurer le coup parce qu'ils sont quand même... Enfin, ça serait compliqué.
Dans un jeu pas du tout blasé sur la collectionnite, c'est clair que...
Ouais.
Ça va un peu faire rager les gens, quoi. J'ai perdu mon costume de banane bleue.
Tu me disais, Alexandre ?
Je pense qu'il se ferait vraiment beaucoup insulter si des gens perdaient leur inventaire d'objets sur Fortnite. Je suppose qu'il y a des gens qui mettent vraiment beaucoup d'argent dedans, comme dans tous les jeux free-to-play.
Et de temps.
Et de temps, mais...
Et beaucoup d'argent.
Je pense que les gens seraient énervés pour les deux, en fait, pour le temps passé et pour l'argent.
Et ce qu'il disait démographiquement, c'est que ceux qui mettaient le plus d'argent, c'était ceux qui étaient chez Apple, donc d'autant plus...
Du coup, ouais.
Enfin, voilà. Du coup, la guerre continue.
La guerre continue. On leur souhaite bon courage. En parlant de guerre qui continue,
Oh, j'allais presque dire sans transition, mais là, pas mal.
Ah ouais, quand même. Guerre qui continue, guerre commerciale, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Vous n'êtes peut-être pas...
Concurrence saine.
Ouais, c'est la concurrence libre et non faussée. Vous n'êtes pas sans savoir que Docker a annoncé que un changement de conditions générales sur le Docker Hub, et que les images qui restaient ad vitam aeternam sur le Docker Hub, si elles n'ont pas été poulées depuis 6 mois, vont être éjectées. Et quelques autres trucs, un changement de tarif, etc. Moi, je trouve ça cool que Docker se penche enfin sur le sujet, parce que c'est une bonne façon de faire du blé, d'avoir d'avoir un hub. Demander à JFrog, demander à Red Hat, puisque clairement ils ont vendu des charrettes de repo Docker à la place de Docker. Donc c'était quoi? C'était Quay chez Red Hat, je crois. Quay.io qui a été racheté par Red Hat.
Ouais, Quay, qui maintenant est surtout intégré avec les solutions type Red Hat, hein, essentiellement. Oui, hein, avec Red Hat Atomic et co.
Et du coup, GitHub qui a sauté sur l'occasion. Alors je sais pas s'ils l'ont fait, s'ils l'avaient prévu avant ou pas, j'en sais rien. J'imagine que oui, parce que ça ne va pas se faire non plus en 2 jours. Assez rapidement après l'annonce de Docker, annonce le GitHub Container Registry. Alors, il y a un an, il y avait déjà eu GitHub Packages, qui était dispo pour ces packages NPM, des choses comme ça, surtout pour avoir des packages privés. Et là, ça y est, il se lance dans le Registry Container. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Je pense pas du tout que ce soit en réponse à ce qui se passe dans l'écosystème. J'imagine que c'est plus en lien à l'activité d'Azure plus qu'autre chose. C'est un truc de GitHub, mais en vrai, ça va sûrement être une feature qu'ils vont mettre en avant pour les clients Azure.
C'est un truc de Microsoft plus que
GitHub. C'est quelque chose d'assez logique, quoi.
Ouais. En tout cas, ça a l'air sympa, et c'est vrai que ça a beaucoup de sens dans le cadre des GitHub Action qu'on en entend plus en plus parler, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas vous, mais... Ouais, de plus en plus sur ma timeline Twitter.
C'est logique, mais il y a aussi une sorte de continuité. C'est justement comme tu as les actions, mais que tu as déjà la possibilité d'avoir des releases, et que finalement, quand les gens font des releases moins natives, mais font plus des conteneurs, avoir une intégration avec un registry, ça a complètement du sens.
Surtout si tu as déjà la possibilité de tuer des registries privés aux gens, d'autant plus.
C'est ça. C'est ça.
On rappelle qu'il est possible de choisir son registry Docker quand on déploie des Docker sur Clever Cloud. Voilà, chaîne l'esprit. Merci Arnaud Lefebvre. Non, c'était peut-être pas toi.
Donc on peut répliquer des conteneurs d'un registry à un autre aussi, avec des technologies de réplication.
Exactement. Et donc, avec transition...
grossière celle-ci. Hein.
Exactement. On commence par une news rigolote, Arnaud... dans le merveilleux monde du peer-to-peer qui avait vu le jour il y a très longtemps avec Napster, puis Kazaa et Mule. Et donc...
Exactement. globalement, ouais. Apparemment, Emule, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous l'avez connu même, ou l'utilisez. Emule a apparemment sorti une mise à jour il y a quelques jours. Je ne me rappelle plus trop de quand est-ce que c'était exactement, mais enfin voilà. Après 10 ans sans mise à jour, en fait. Genre, la dernière version remontait à 2009 ou 2010, par là. Ouais, 2010, ouais. Et du coup, une nouvelle version est sortie. Alors, avec quelques nouveautés, forcément. Apparemment, je crois, le support de HTTPS pour se connecter à d'autres peers, a priori, ou des choses du style. Donc, rien de très, très incroyable. Par exemple, il n'y a toujours pas de support IPv6 ou autre. Mais le projet est toujours vivant, en fait. Et c'est ça, moi, surtout, qui m'a le plus impressionné. Parce que Emule, je m'en servais pas vraiment en direct, mais c'était quelque chose qui était assez connu, quoi. Et enfin voilà, moi j'ai trouvé ça fun. Je sais pas vous, mais
ah, si, je pensais que c'était mort et enterré depuis pareil, ouais. Très très longtemps. Même déjà 2010, je trouve ça étonnant, en fait. Ouais, à l'époque, ce qui était devenu hype, c'était justement plus Kazaa que Emule, en tout cas, on va dire, dans les environnements que je côtoyais, mon collège, etc. Et depuis, de toute façon, le peer-to-peer, Kazaa, Emule, etc., Shareasaa et autres, c'est plus quelque chose de vraiment majoritaire, quoi. Je pensais vraiment que cette communauté-là était...
Est-ce que c'est le torrent qui a tout cassé?
C'est le BitTorrent, ouais, clairement.
C'est torrent d'un côté, et les liens directs de l'autre, sur Megaupload et RapidShare à l'époque. Et puis le streaming aussi pour beaucoup. Je sais que dans mon cercle d'amis, les gens moins versés dans l'informatique, on va dire, le streaming c'était la solution super simple, quoi.
Bah, à partir du moment, à partir du moment où il y a
eu pas d'époque, je veux dire, mais c'est comme ça que ça a migré, quoi. Il y a eu le côté d'abord émule, après plus lien direct, et puis ensuite streaming, et c'est ça qui, pour moi, a vraiment mis fin. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont fait du streaming à l'époque comme ça, je pense pas qu'ils soient forcément remis au torrent derrière, la plupart.
Puis je pense que les gens qui ont utilisé Emule à l'époque, ils avaient 70 teras de films et d'audio à écouter, et ils ont toujours pas fini d'écouter le premier, donc...
Et à chaque fois qu'il veut regarder un truc, en fait, c'est pas ce qu'il pensait, parce que...
Ouais, voilà, ouais. C'était surtout ça le problème, en fait.
Le problème, ce truc-là.
Moi, c'est le seul souvenir que j'en ai de ce truc. Hein. C'est... Ouais.
Non, mais il y a quand même la démocratisation, même si c'est toujours pas un peu pénible, parce qu'il y a 50 milliards de services, si ça se split encore plus, des services de streaming légaux, au-delà de l'illégal. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu ce que tout le monde aurait peut-être espéré, fut un temps, d'avoir quelque chose, une sorte de package complet de contenu... Il y a eu des offres privées légales qui finalement ont amené une offre qui fait que tu n'as pas forcément besoin pour voir tel ou tel film d'aller télécharger, si, sauf si c'est pas du mainstream, entre guillemets. Quoi. En tout cas, pour tout un chacun, on va dire.
Oui.
C'était l'époque où tu avais Adopi qui disait Ah, le méchant peer-to-peer et tout, ça va tous nous tuer. Et finalement, quand il y a eu les offres légales.
Ouais, elles ont bien fonctionné. Ça. Comme quoi, il fallait juste une offre légale agréable à utiliser et pas trop chère. Et...
On est au point où en démarrant un DVD là, avec mes enfants, ils m'ont demandé mais pourquoi ils nous disent qu'on est des pirates.
Ah mais ça c'est terrible.
c'est un truc qu'on a acheté. Ouais, en gros tu te faisais insulter quand tu achetais quelque chose et puis quand tu
t'es chargé, il n'y avait rien. De Blu-ray où ils ont pris le contre-pied de ça, tu avais plus ce message genre c'est interdit de copier ce disque, etc.
C'était marqué merci.
Tu avais juste un gros thank you avec le disque qui tombe et tout, et un mec qui dit ouais, c'est cool. Ça faisait plaisir, mais ça n'a pas été systématique finalement. C'est dommage. C'est revenu depuis sur certains.
C'est vrai. Ah, c'est rigolo, enfin revoir les screenshots, ça pique les yeux quand même.
Ouais, ça ne te rajeunit pas surtout. Non, genre... C'était un autre monde.
Certes.
Comme quoi, la licence globale, c'était une bonne idée.
Certes. Moi, là, c'est le terme que je cherchais, la licence globale. Ouais. Ouais. Ça aurait été bien, ouais.
Ce suite était bien, mais il fallait se battre contre Pascal Nègre à l'époque et ses amis. Le patron d'Universal.
Qui se sont amenés Netflix sur la figure.
Exactement, qui se sont fait déboîter. Et t'as envie de dire, c'est bien fait pour eux. Bon, je sais pas. C'est pour rejoindre ce que disait Alex tout à l'heure, c'est que quand l'offre pas légale est plus facile à utiliser que l'offre légale, au final, l'utilisateur, il va vers ce qui est le plus simple à utiliser. Et c'était tellement simple à une époque d'utiliser ça.
Ouais, que, aussi parce qu'elle était pas légale et entre deux, c'est-à-dire qu'elle était pas légale, mais avant qu'il y ait Adopi, qui était même pas un vrai renforcement, c'était pas légal, mais voilà. C'est comme les grandes feuilles pour le tabac, quoi.
Je comptais pas forcément
des grandes cigarettes, quoi.
C'est ça. Je comptais pas forcément la mule comme facile à utiliser, mais je pensais plus à Popcorn Time à l'époque, qui avait un peu démocratisé le streaming torrent et qui s'est fait.
C'était un peu après quand même.
C'était.
C'était un peu après, je pense.
Ouais, c'était quand même vachement après.
C'est relativement récent. Ouais. Non, très récent.
Ça a 5 ans, 5-6 ans.
Ouais, il y a 4 ans, je crois que ça va faire mieux. Après, il y a d'autres services aussi qu'on joue à côté, hein, donc voilà.
Ouais. Yep. Bref, peer-to-peer toujours, ouais. Avec Lib BitTorrent V2. Donc, comme il y avait encore une équipe de dev actif sur la mule, apparemment, il y a aussi une équipe de dev actif sur BitTorrent.
C'est ça. Donc le BitTorrent donc, est un protocole de partage pair à pair. Et en fait, il a reçu en effet une nouvelle version, puisque jusqu'à présent, on était sur la version 1. Et la version 2, en fait, sort. Qu'est-ce qui justifie en fait cette nouvelle version ? Majoritairement, le fait que dans un BitTorrent, en fait, vous avez, dans un torrent plutôt, vous avez un fichier en fait qui est splitté en plusieurs parties en fait, et chaque partie est hashée. Enfin, en fait, on connaît son hash quand on la télécharge, et comme ça, on peut vérifier si on a bien téléchargé en fait la bonne partie de fichier, ce qui évite de donner n'importe quoi. Et en fait, ces hashes étaient faits en SHA-1, et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années maintenant, les collisions SHA-1 sont possibles, c'est-à-dire à partir d'un même input de données, vous retrouvez le même SHA-1, en fait. Enfin, vous pouvez retrouver le même SHA-1. Alors ça demande peut-être un peu de heuristiques, etc. Enfin, vous pouvez peut-être pas le faire pour absolument tout, mais comme c'est tous les problèmes en sécurité... qui sait attendre, au final, saura réaliser ça au fur et à mesure. Quoi. Donc ils ont pris un peu les devants, comme Git, hein, qui va bientôt, peut-être même c'est déjà le cas, changer ses versions d'objets, je crois, passer de SHA-1 à autre chose. Ils ont changé ça pour passer en SHA-256, et au passage ils se sont dit, bah autant, quitte à ce qu'on pète le protocole, ou en tout cas une partie du protocole, autant péter autre chose et mettre des trucs qu'on voulait mettre depuis très longtemps, quoi. Donc ils ont fait une vraie breaking change, en fait, et donc en l'occurrence c'est ça, ils ont donc remplacé les identifications de blocs par du SHA-256. Ils ont mis d'autres features, par exemple, en fait, quand vous avez votre point torrent, en fait, votre point torrent contient toutes les métadonnées des fichiers. Par exemple, le chemin du fichier, ses attributs, ce qui est exécutable, etc. Et en fait, dedans, bah, imaginons si vous avez une arborescence énorme avec plein de dossiers, de sous-fichiers, de sous-dossiers, etc. Bah, à chaque entrée, en fait, dans le torrent, en fait, il y avait absolument tout qui était repris. Donc, bah, si vous aviez, je sais pas, 1000 fichiers dans un seul sous-dossier, bah, le sous-dossier était à chaque fois spécifié, en fait, dans le chemin du fichier. Donc, maintenant, c'est fait avec un arbre. Donc, comme sur un file system, en fait, vous avez d'abord la définition du dossier, puis après, le dossier contient tel fichier, etc., etc., quoi. Donc ça gagne un peu de taille, on va dire, dans les torrents, bon, même si c'est pas toujours très gros, mais pour les très gros torrents, ça peut aider. Le protocole Magnet Link a lui aussi été mis à jour pour supporter la V2. Donc les Magnet Link, c'est globalement, vous avez en fait une espèce d'URL qui contient en fait toutes les métadonnées pour commencer à parler aux autres nœuds dans la DHT, donc dans l'essaim, on va dire, de pair, on va dire ça comme ça. Et surtout le truc en fait qui est vraiment cool, c'est que les features sont à peu près backward compatibles, c'est-à-dire qu'un torrent peut être en fait, peut avoir les doubles informations, c'est-à-dire supporter la V1 et la V2, et après en fait c'est la lib de torrent qui annonce en fait ce qu'elle reconnaît. Si elle voit du V1, elle annonce du V1, et si elle voit du V2 à côté, bah, elle annoncera aussi le V2, et comme ça tout le monde sera content, quoi. On peut avoir une transition à peu près smooth.
C'est cool.
Donc voilà. Globalement, pour les utilisateurs, ça ne changera peut-être pas grand-chose, mis à part mettre à jour vos clients torrent et là où vous téléchargez vos torrents, ou si vous les fabriquez vous-même, bah, ça peut être soit automatique, soit... Enfin, ça sera probablement pas visible, en fait. Ouais. Peut-être un peu moins de paires si c'est que du V2, quoi.
Voilà. Ok. Un avis, messieurs, où on part sans transition, du tout, cette fois, sur une nouvelle release de...
Bah si, c'est aussi une nouvelle release. Quoi. Enfin, c'est plusieurs releases.
Ouais, c'est un nouveau protocole. Enfin, c'est pas un nouveau protocole.
Un peu d'infos sur les deux dernières releases de JDK qui ont des features communes. Moi, je vais parler de la 15, mais en fait, ça se regroupe un peu avec celle de la 14. Parce qu'en fait, il y a pas mal de features qui étaient en preview dans la 14 et qui passent en feature dans la 15, ou dans même dans les précédentes. Donc JDK 15, on s'approche progressivement dans un an. Hein, donc il reste deux releases avant la prochaine LTS. Sachant que la dernière LTS, c'était la 11. Toutes les autres releases, entre-temps, bah, globalement, elles ne sont pas supportées par la plupart des éditeurs, ou alors elles sont supportées jusqu'à la release suivante. C'est-à-dire que la 15 va être probablement supportée jusqu'à la 16, et ainsi de suite. Après, il y a pas mal d'éditeurs qui supportent la 11 et qui supporteront la 17. Donc, les features de la 17 commencent à y avoir un bon paquet qui sont dans la 15, donc ça commence à devenir intéressant de regarder. Et là, ils ont droppé... donc, il y a pas mal de choses qui ont été dépréciées et qui ont été supprimées dans cette version, du coup, parce que ça marche toujours en cycle dépréciation puis suppression plus tard. Et donc là, il y a une qui n'est pas anodine historiquement, c'est le support de Solaris et de Spark, qui, du coup, est droppé. Là, il n'y en a plus dans la version 15. Donc, jusque-là, c'était en attente. Mais là, maintenant, si d'aventure, vous faites partie des gens qui font encore du Solaris, bah, soit passez à autre chose ou faites du Solaris Intel, quoi. J'ai bien d'ici. autre chose, si vous avez des choses qui sont basées sur Nashorn, bah Nashorn à partir de la 15, c'est plus disponible du tout. Donc pour privilégier GraalVM et d'autres implémentations de JavaScript basées ou non sur la JVM, évidemment. Donc Nashorn, c'était un moteur JavaScript qui avait été introduit, si je ne m'abuse, au moment de Java 8, quelque chose comme ça. Qui était externe, enfin qui pouvait être appelé depuis l'extérieur, qui était pas mal au début.
C'est un successeur de Rhino, c'est ça ?
Ah oui, c'est un successeur de Rhino, mais une complète réécriture. C'était même pas basé du tout sur Rhino, lui faisait partie des scripting languages de la JVM. Lui, là, c'était vraiment une implémentation basée sur la JVM complète de JavaScript. et qui aurait pu être une bonne idée, mais je pense qu'ils n'avaient pas staffé le nombre de personnes pour suivre les changements des specs JavaScript, quoi. Donc c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, ils n'ont pas la base d'utilisateurs et ils n'ont pas la base de mainteneurs pour suivre ce qui est l'évolution d'ECMA. Donc ils lâchent l'affaire, il n'y a pas eu de repreneur, donc le truc là, il va mourir de sa belle mort, à moins qu'un repreneur se manifeste en découvrant... Il y a peut-être un key user qui ne s'était pas rendu compte que ça allait être supprimé, mais ça serait bizarre quand même.
Tu ne crois pas qu'ils vont migrer sur JavaScript exécuté sur GraalVM et réattribuer
si, les probablement. Je pense que ça a déjà été fait. Je pense que les gens qui sont sur GraalVM sont des gens qui bossaient là-dessus, probablement, ouais, en partie, hein. Pour tout ou partie. Et voilà pour ça. Donc, c'est des choses importantes à noter. En dépréciation, pour les choses qui, à venir, il y a donc l'activation RMI. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais si vous êtes intéressé par RMI, il y a des chances que ça commence à... Et donc, ils ont fait le constat que la plupart des contacts entre applications hébergées par des JVM se font plus pour passer les firewalls par de l'HTTP, HTTPS, que par du RMI de nos jours. Donc, globalement, ça va dropper, quoi.
T'en vois beaucoup, toi, du RMI en ce moment ?
Je ne veux plus voir de RMI depuis bien longtemps, donc j'avoue que
pour ça,
c'est un acte volontaire. Donc,
je ouais. comprends.
À l'époque, entre guillemets, reine des EJB, il y a une quinzaine d'années, RMI, il y en avait partout. Maintenant, c'est quand même un moment que c'est quand même perdu de vitesse. Quoi.
Tu sais ce que ça veut dire, RMI ?
Remote Method Invocation.
Ok.
Donc, en gros, c'est tu connectes des stub skeletons et puis tu envoies du bytecode en fait sur des canaux réseau, quoi, avec des ports spécifiques pour ça. Okay. Plus ou moins random. D'ailleurs, ça a toujours été un peu pénible dans les implémentations RMI, c'est que ça ouvrait des ports un peu en random. C'était pas toujours possible de spécifier. Donc, pour les firewalls, c'est toujours sympa aussi.
Les blocs de sérialisation.
Ça démarre et tu sais pas quel port ça va prendre, donc c'est cool.
Il y avait plein de trucs chiants.
Plein. Ouais.
Ouais, voilà. Je sais, c'est que j'ai pas un gros background Java et j'aime bien voir des features comme ça. Ah,
je suis sûr qu'il y a des corner cases où il y a des gens qui trouvent ça encore utile. Bah voilà, je pense qu'il y a des chances qu'au moment de la 17 LTS, il n'y ait plus du tout de support RMI historique, en tout cas. Il y aura peut-être des alternatives. Et il y a aussi des implémentations RMI qui ne sont pas dans le JDK, donc qui existent. Hein, donc si, je pense qu'il y a moyen d'utiliser.
Ah, tous les besoins de scale JB il y a longtemps qui devaient se distribuer, c'était ça, quoi. Et c'était pas marrant.
Sinon, pour info, il y a le bias locking qui va être déprécié et désactivé avec une option pour le réactiver pour ceux qui en ont besoin. J'avoue qu'honnêtement, je le dis pour info parce que c'est dans la liste, mais je ne sais pas exactement quel est l'impact et je n'ai pas consciemment, volontairement utilisé le bias locking. Donc, je ne sais pas. En tout cas, ça impacte les performances. Je laisse les gens que ça intéresse aller voir les détails. Dans les features qui sont vraiment donc du coup rendues permanentes dans cette version, il y a le support de HDSA, donc il y a un mécanisme de chiffrement, je ne vais pas dire encryption cette fois, comme ça je ne me ferai pas disputer, supplémentaire. Pareil, on ne va pas rentrer dans les détails d'HDSA dans ce podcast, je pense, mais ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à les voir. Il y a un truc sympa qui est les helpful null pointer exceptions, donc pour tous ceux qui se sont arrachés un peu les cheveux quand sur des null pointer exceptions sur une ligne.
Qui ont fait une fois du Java dans leur vie.
C'est probablement ça, ouais. Bon, après, ça dépend comment tu structures ton code. Mais globalement, tu savais sur une ligne, si en gros, tu avais quelque chose, point quelque chose, que c'était toujours là. Mais si tu fais quelque chose, point quelque chose, c'est-à-dire que tu fais des invocations successives sur une même ligne, bah, tu n'avais pas moyen de savoir lequel mettait le truc. Et là, en fait, il te met le détail en te disant c'est telle partie du segment qui est nulle. Donc, il te donne l'information dans le... Et là, maintenant, c'est activé par défaut dans les releases précédentes jusqu'à la 14. Je crois que ça a été introduit en 13 ou 14. Il fallait mettre un flag pour l'activer. Maintenant, c'est par défaut.
Dans la 15. Bah, c'est cool. C'est tellement facile de dépendre des lignes d'autres gens et de te taper des NPL dans les lignes de gens que t'es...
Voilà. Alors après, il y a des moyens de l'éviter, mais quand t'appelles des trucs tiers, t'as pas toujours le moyen de l'éviter. Mais sinon, quand tu codes, t'as moyen avec des annotations et des choses comme ça maintenant de verrouiller ton truc pour éviter d'avoir ce problème. D'une manière qui l'évite, c'est-à-dire en faisant quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Où là, tu vas mettre tes erreurs dans tes streams et ce sera encore pire à débugger.
Moi, ça me rappelle JavaScript avec les define, is not a function, etc. Genre, c'est. Une fois qu'on a eu cette feature de « enfin, on sait vraiment qu'est-ce qui est undefined », on était vraiment très contents. Quoi.
C'est ça, c'est du même ordre. C'est exactement du même ordre.
Ouais, c'est super cool. Ouais.
Ensuite, il y a deux garbage collectors qui arrivent en feature définitive. Parce que Shenandoah, en fait, c'est un garbage collector qui était dans des JVM de Red Hat, je crois, pendant très longtemps, et qui a été versé à OpenJDK à partir du 2009, je crois, enfin, depuis que ça a changé de cycle de vie. Et maintenant, il est vraiment il est opérationnel. Il était déclaré expérimental depuis Java 12. Voilà. Et il y a 7GC qui est aussi activé dans cette release-là. Je pense pas qu'on aura le temps d'entrer dans les détails de ces garbage collectors. Et en plus, je suis pas spécialement expert sur leur qualité, les ayant assez peu utilisés pour ma part. Mais en tout cas, ils ont des scénarios d'usage dédiés intéressants. Et maintenant, le fait qu'ils soient vraiment dispo et que ce soit plus de l'expérimental, ça veut dire qu'ils sont partis pour être là en LTS 17, quoi.
ZGC, ça, je crois qu'on a fait des tests, alors je sais pas si c'était nous ou c'était les camarades de VH sur du Zookeeper, du Hadoop et des choses comme ça. Et apparemment, c'était vraiment très très cool et très prometteur.
Il me semble que c'était VH parce que ça me parle et j'essaie de retrouver si c'était bien eux ou pas, mais ouais.
Si c'est pour Zookeeper, en plus, intuitivement, ça sonne bien ZGC pour Zookeeper.
Il me semble aussi avoir vu un talk de quelqu'un de chez Criteo qui a fait des tests comme ça de GC sur leur Hadoop pour la partie plus MapReduce. Et ZGC était pas mal, mais je crois qu'ils utilisent du coup un autre GC maintenant. Enfin, c'est une autre JVM même qui a un système de garbage collector qui reprend ces principes-là, mais c'est pas un truc qui est dans OpenJDK, si je ne m'abuse. Mais le test était déjà intéressant avec ZGC.
Dans tous les cas, pour les améliorations de performance ou tests de charge, il y a maintenant deux nouvelles options pour du low latency ou du low post time qui sont intéressantes et qui sont built-in. Donc c'est vraiment pas une mauvaise nouvelle, et de savoir qu'elles sont vraiment rendues permanentes, ça veut dire qu'en effet elles seront dans la prochaine LTS, qui est une de celles vers lesquelles la plupart des gens vont aller probablement, donc qui sera la 17. Et ensuite, on a bon, un truc un peu anodin, c'est les text blocs qui existent en plein de langages de script et autres langages depuis longtemps. Donc, on met trois cotes, on ferme avec trois cotes, et on peut faire des blocs de texte multilignes.
Donc, ça... C'est pas si anodin, franchement, c'est cool pour quand tu fais des requêtes SQL peu vénères. C'est une bonne nouvelle.
C'est cool pour plein de choses, pour des gens qui ont du contenu textuel à mettre, ou des choses comme ça, et qui n'ont peut-être pas forcément de bundle externe. Enfin, il y a plein de scénarios, même pour des démos, hein, tout simplement. Tous les gens qui font des démos sont contents d'avoir ça. Tu colles un bout de JSON dans la chaîne multiligne, et puis voilà. Mais voilà. Et il y a des réimplémentations de datagram socket, des choses comme ça. Bon. Après, dans les previews, c'est ce qui viendra probablement d'ici la 17. Il y a des fonctionnalités plus orientées sur les records, le pattern matching, les interfaces et classes scellées. Et des classes cachées qui sont en fait des manières de créer des classes qui sont accessibles uniquement pour une implémentation. Donc, par exemple, pour les langages de scripting, ils peuvent avoir des classes qu'ils utilisent pour leur implémentation, mais qui ne seront pas visibles à l'utilisateur final, si on veut. Donc ça permet d'optimiser la longueur de la stack. Je dis peut-être un peu une bêtise sur l'histoire de la longueur.
Pour la partie SILD, après, je ne connais pas trop l'implémentation dans Java, mais je suppose que SILD, ça veut surtout dire que tu ne peux pas étendre cette classe depuis l'extérieur de ton package actuel. C'est-à-dire quelqu'un qui utilise ta lib.
Alors là, ça, apparemment, ils sont même allés au-delà du concept de package, parce qu'en fait, il y avait déjà dans la visibilité la possibilité de mettre quelque chose private ou protected en protected, tu pouvais y accéder que dans ton package, en gros.
Là, c'est pas une question d'accès, c'est le côté que tu peux pas étendre, et du coup, tu es sûr que tous les enfants qui existent au moment où tu les as déclarés, bah, c'est les seuls.
Voilà, en fait, là, ce qu'il y a, c'est que maintenant, tu as un mot-clé, tu scelles ta classe, et tu as un mot-clé permits, où tu existes explicitement ceux qui l'étendent. Donc si tu veux, toi, utiliser le mécanisme d'héritage, tu peux, mais d'autres personnes ne pourront pas hériter de ta classe. Ouais. En tout cas, sans casser les règles de la JVM. Quoi. Ce qui paraîtrait un peu bizarre. Et donc, il y a aussi les records qui sont des structures de données. Je ne vais pas dire que ce sont des structs, parce que ce n'est pas ça, c'est un peu plus orienté objet, mais c'est cette idée de structure immutable avec des constructeurs simplifiés et peu de modificateurs. Et voilà... Il y a ensuite une API pour accéder à ce qu'ils appellent la foreign memory, ce qui est en fait la mémoire native hors de la heap. Donc ce que certaines librairies de cache, il me semble que Terracotta Co, je crois, faisait ça, si je ne dis pas de bêtises, accède à de la mémoire en dehors de la heap avec du code natif spécifique. Donc là, il y aura une API pour le faire spécifiquement. Et ça va permettre... ça va permettre d'accéder à la mémoire hors de la heap, de fin de l'histoire, donc pour des scénarios un peu spécifiques. Juste sur les hidden classes, les classes cachées, c'est quelque chose qui apparemment existait déjà et qui en fait a été implémenté pour enlever des classes spécifiques sun quelque chose qui étaient des classes normalement internes qu'il ne fallait pas utiliser. Quoi. Donc là, ça va être mis public. Voilà. Principal modif de cette dernière version de JDK qui sort en septembre. qui sort ce mois-ci. La prochaine sera donc dans 6 mois et la 17 LTS septembre 2021.
Et du coup, là, j'ai quand même. Enfin, là, par exemple, les styles classes, alors je sais pas si ça vient de là, mais les styles classes ou même les strings multilines, ça me rappelle un peu ce qu'il y a là, au final. Genre, est-ce que Java se base dessus ou alors c'est peut-être un autre langage un peu plus.
En fait,
s'en inspire probablement, oui.
Ouais, ça inspire. Ouais.
Ça, c'est l'évolution logique. Enfin, tu vois, ils ont commencé à faire pas mal de programmation fonctionnelle réactive avec des lambdas, des choses comme ça. Et t'as besoin de tup, t'as besoin de syntclass, t'as besoin de ces trucs-là. Et c'est logique que ça finisse par arriver. Et sans dire ça a été copié de tel ou tel langage, c'est logique que ça finisse par arriver vu le changement d'image, le changement d'usage de paradigme de programmation depuis Java 8 ou Java 9.
Ce qui est intéressant, c'est ce que ça change de manière sous-jacente, parce qu'après, Scala tourne sur la JVM, donc ce qui est en dessous peut être accessible à Scala en termes de mécanique aussi pour optimiser. Et du coup, le fait de faire du pattern matching maintenant, c'est le sealed, il vient avec, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir à scanner la totalité pour essayer de trouver tout ce qui peut matcher, parce que tu sais qu'il n'y a que ces quatre classes qui peuvent matcher, ça va aussi optimiser les performances.
Bah alors après, le pattern matching dans les exemples, j'ai l'impression que je suis... Enfin... Ouais, c'est le pattern matching vraiment lié à l'instance off au final. Ouais,
là, dans les bouts de code qu'il y a dans les notes, si c'est à ça que tu te réfères, il n'y a pas d'exemple de pattern matching. Là. Le pattern matching d'instance off, par exemple, on a le mot-clé instance off maintenant qui permet de matcher et de dire c'est une instance off quelque chose et puis de matcher un type. Quoi.
Bah, de directement convertir le type, en fait, surtout, j'ai l'impression. Ouais.
Et il y aura un support aussi pour les records. Donc c'est un peu un tout, en fait. Ça avance par petites touches. Je pense que le big picture sera plutôt en version 17 quand toutes les features arriveront en même temps.
Et en semi-transition, parce que nous sommes dans les nouvelles versions de langage, c'est un lien d'Arnaud sur la nouvelle version, la nouvelle spec C++. La dernière, c'était la 17, donc 2017, et là, on est sur la fin de sur l'approbation de C++ 20. Donc C++ continue à évoluer, toujours avec des nouvelles fonctionnalités. Personnellement, je n'ai jamais fait de C++ de ma vie.
Bah, écoute, tu peux commencer à n'importe quand. Hein. Ouais, donc c'est ça, en fait, C++ 20, en fait, est là.
Enfin, ouais, il y a des gens, ils m'ont dit qu'il fallait que je commence par faire du Rust avant.
Oui, mais ces gens, on les connaît. Non, en vrai, bah, pourquoi pas, mais je suppose qu'il y a, enfin, il y a encore pas mal de code base au final qui est fait en C++. Et c'est vrai que bah, ça continue d'évoluer, peut-être à un rythme un peu plus faible que ce qu'on peut s'attendre avec Rust, tu vois, mais c'est normal aussi. Il y a plus de considérations à prendre, peut-être.
Il n'y a pas le même historique, ouais.
C'est ça. Donc en effet, donc là, c'est la nouvelle spécification C++ 20, qui en fait... a été approuvée là, c'est-à-dire elle a été votée il y a quelques jours et a été approuvée à l'unanimité par le consensus de ses développeurs. Mais ce qu'il faut noter en fait, c'est que les features de cette release sont fixées déjà depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc en fait, on savait déjà depuis un an qu'est-ce qui allait arriver. Mais du coup là, je voulais remettre un petit descriptif rapidement des features les plus intéressantes qui arrivent, parce que soit elles sont déjà implémentées en fait dans les différents compilateurs, soit elles vont bientôt l'être, mais en fait vous pouvez déjà les utiliser derrière des flags sur certains, soit sur GCC ou sur MSVC, etc. quoi. Dans les nouvelles features, il y avait déjà en fait une feature d'expression constante en fait qui était possible en C++, c'est-à-dire vous pouviez faire une fonction qui retourne une valeur constante, et en fait cette fonction avait de grandes chances, suivant le niveau d'optimisation du compiler, d'être automatiquement en fait inférée dans le build, en fait, c'est-à-dire elle est on va dire exécutée au build, et en fait juste son résultat est stocké dans le binaire, ce qui évite de faire des appels pour rien lors du runtime. Mmh. Et cette fois-ci, en fait, vous avez un meilleur support de ces fonctions-là. Alors j'ai pas l'impression qu'on puisse faire encore, enfin peut-être que c'est déjà possible, j'ai pas vraiment regardé, mais je sais pas si on pouvait faire des conditions dedans, je suppose que oui, mais là maintenant on peut faire du try-catch, ou alors on peut retourner, je sais plus, enfin voilà, globalement il y a des nouvelles petites fonctionnalités qui arrivent dans cette approche, qui peuvent toujours être utiles sur de l'optim, quoi. Et alors après il y a une introduction des concepts. Alors le concept est un vrai nom, c'est une fonctionnalité.
C'est le concept de concept, quoi.
C'est ça. Dans l'article ils disent the concept of concepts.
Ah bah non.
Et alors, globalement, de ce que j'en ai compris, ça permet en fait d'un peu mieux typer, ou en tout cas de s'assurer qu'un type paramétrique que vous donnez à une fonction ou à un template ou à une classe ou autre, que ce type paramétrique en fait est bien le bon type que vous attendez. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une fonction qui prend n'importe quel type, imaginons, mais en fait, vous voulez l'additionner, et en fait, ça, vous êtes sûr après que le type que vous donnez, vous pouvez mettre une condition en fait comme quoi ce type-là doit être de type, je sais pas, genre integer ou de type ma class peut-être, ou un truc du style, quoi. Par exemple, en Rust, c'est exactement ce qui se passe avec les types parameters, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous dites, j'ai ce type-là, et ce type-là doit implémenter tel trait, etc., pour pouvoir l'utiliser. C'est globalement un peu ce qu'il y a dans ces...
Duck typing, quoi.
Comment ?
C'est du duck typing, non ? Ou je dis une bêtise ?
Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est.
Ah, le duck typing, c'est si ça fait coin-coin, et que ça a un bec, et que ça a des palmes, c'est un canard, quoi.
Oui.
C'est-à-dire que tu types pas quelque chose en disant c'est un canard, tu pars de ses caractéristiques, c'est-à-dire tu dis j'attends quelque chose qui run parce qu'il a une méthode run, en gros.
C'est ça, là c'est un peu, alors je sais pas si ça va jusque là, mais les exemples de ce que j'en ai vu, c'est en effet on peut dire si t'as tel attribut ou tel type, genre si t'es genre un integer ou un truc qui dépend de l'integer, tu peux faire des choses, etc., quoi. Enfin, c'est histoire de pouvoir un peu typer plus fortement en fait, et que le compilateur t'engueule mieux, et surtout qu'il t'indique beaucoup plus facilement qu'est-ce que t'aurais dû passer. Parce que avant, ça aurait très bien pu ne pas passer, mais t'aurais eu des messages d'erreur pas toujours super
cryptiques. Un peu cryptique, quoi.
C'est ça. Par exemple, en Rust, ils te disent ce type-là n'implémente pas telle méthode, ou n'implémente pas tel type, etc., quoi. Donc là, ça te permettra de savoir un peu plus. Une fois qu'on a parlé de ça, il y a aussi l'ajout d'un nouveau standard dans le namespace std qui s'appellera std:// format, qui permettra en fait de formater différentes strings, etc. C'est apparemment l'ajout de la libfmt, de ce que j'ai compris. Mais en fait, c'est l'équivalent de, par exemple, de la partie formatage de Python, ou même en fait de ce qu'on retrouve déjà en Rust, c'est-à-dire vous pouvez mieux, au lieu d'avoir faire du printf vous-même avec vos %s, etc., vous pourrez directement mettre, je sais pas, imaginons ma variable accolade accolade, enfin mon texte
accolade espace nommé, quoi, des placeholders,
c'est ça, en fait. Ouais, ça. Ouais, c'est probablement ça du coup, mm-hmm, que tu appelles, et du coup voilà, ça vous permet en fait de manipuler des strings un peu plus facilement, de faire des opérations dessus un peu plus facilement là aussi, plutôt que de les faire avec parfois la magie un peu de printf, ou même de les faire avant, mais là en fait vous pourrez directement les filer à la lib de formatage, quoi. Ce qui est parfois plus pratique, parce que même parfois c'est vrai qu'en C++ il y a les histoires de c'est in, c'est out avec les streams, etc., et c'est pas toujours très très évident, quoi. Voilà, il y a aussi les modules qui permettent d'importer et exporter des classes, c'est-à-dire au lieu de définir votre classe dans un fichier de header, imaginons, et après dans un autre fichier de importer en fait cet header, là vous pourrez directement mettre, je sais pas, export ma classe, et dans le fichier où vous voulez importer, vous mettez le mot-clé import de telle classe, quoi. Un peu comme ce qu'on retrouve déjà, je sais pas, en JavaScript avec les fonctions import-export. Alors ça a l'air assez marrant. Apparemment, les gens sont pas super contents de comment c'est implémenté encore ou entièrement. Donc, à voir comment ça va évoluer. Peut-être que ce sera un peu amélioré dans les prochaines specs ou autres. Enfin, ça fait un peu débat ici et là, mais en tout cas, ce sera implémenté comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal, moi, je trouve. Parce que c'est vrai que les points H, alors je sais pas s'ils vont totalement disparaître, j'en doute, etc. Mais c'est parfois un peu chiant quand tu l'inclus plusieurs fois dans un. Enfin, c'est pas H, c'est plus en plus, c'est autre chose. C'est HPP, je sais plus, bref, ou c'est une convention. Mais du coup, c'est pas toujours évident de t'y retrouver, quoi.
Alors du coup, moi qui suis pas non plus codeur C++, j'ai sans doute dire une connerie, mais du coup, c'est quel type de linkage après ça reste, c'est indépendant du fait que ce soit linké en statique ou dynamique, ça c'est...
Alors ça, je sais pas par contre.
Ouais, ok.
Je suppose que...
C'est pas un piège.
Ça, j'avoue, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Mais c'est vrai que ça pose des questions. Justement, en fait, si jamais tu fais du dynamique, peut-être que tu continueras de passer par les points H, etc. Et juste, en fait, à l'intérieur de ton projet,
C'est quand j'entends module, ouais. En général, il y a toujours la question de savoir si c'est un module que tu peux changer entre guillemets en live quand le programme tourne, ou si c'est juste une manière de modulariser ton code en pré-compilation, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est une manière d'importer, d'exporter du code de quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux vraiment changer dynamiquement, modulariser à proprement parler?
Mais non, bon. Je pense que c'est vraiment plus en effet la partie compilation et dans ta base de code, en fait, exporter facilement une classe ou un objet.
D'accord.
Et l'importer aussi facilement plutôt que de passer par des fichiers intermédiaires, les points H, etc. Mais ouais, je suppose que sur une API publique, tu dois continuer à faire des points H. Si tu fournis en fait une librairie externe, tu continueras de fournir ces points H, je suppose, quoi. À voir comment ça va arriver. Et dernière fonctionnalité que j'ai retenue, les coroutines. Globalement, c'est en fait des fonctions qui peuvent s'interrompre et reprendre leur exécution tout en gardant en fait leur état. Alors, il me semble que c'est comme ça que fonctionnent les goroutines, si je dis pas de bêtises. Et encore, je suis pas tout à fait sûr. Mais enfin, en tout cas, c'est une fonctionnalité qui est sympa. J'en ai jamais vraiment utilisé, que ce soit dans ce langage ou dans d'autres. Je sais pas vraiment si c'est vraiment utile, mais j'ai vu pas mal de gens qui, en tout cas, étaient hypés par ça. Alors, je sais pas si ça vous parle.
J'arrive pas à savoir si c'est similaire aux coroutines que t'as en Kotlin, que t'as en Go, t'as le système de Fiber, en Java. Enfin, ça a effectivement beaucoup le vent en poupe. On en avait parlé dans les premiers épisodes il y a fort longtemps. Et effectivement, ça intéresse beaucoup de gens parce que ça te permet de moins patater ton CPU quand tu veux changer de contexte, changer de thread. Parce que du coup, tu changes pas de thread. Et du coup, c'est cool.
C'est ça.
Ça va souvent de pair avec des modes de programmation plus fonctionnels aussi, avec le fait de gérer des streams d'infos finalement dans un même contexte, non?
Bah du coup, ouais, le changement de contexte est pas cher.
Ouais, bah parce que oui, est-ce que c'est ça, enfin, t'as pas un changement de contexte au niveau du CPU, je crois, c'est au niveau du runtime, donc c'est moins, ouais. Donc voilà, vraiment pour les fonctionnalités, alors il y en a forcément d'autres qui peuvent peut-être plus vous intéresser ou... Qui en tout cas correspondent plus à vos besoins, donc je vous invite forcément à les regarder. Je sais juste que les supports, en effet, comme j'ai dit au tout début, sont déjà plus ou moins présents derrière des flags dans la majorité des compilateurs. Après, ce qu'ils avaient dit, c'est que les compilateurs, enfin les prochaines versions des compilateurs, ne supporteront pas toute la spec, a priori, parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles features. Et en fait, il faut s'attendre à ce que ce soit supporté, ouais, voilà, bah, comme d'habitude, d'ici un an, deux ans, peut-être même jusqu'à trois ans maximum, suivant l'importance de ces fonctionnalités, quoi. Mais voilà.
On a du C++ en prod chez nous ou...
Bah,
de mémoire, non.
En tout cas, de soft projet interne, je crois pas.
Ouais. Si on a en prod, c'est pas du maintenu par nous. Quoi.
C'est ça, on en a en prod.
Indirectement.
Oui, on en a forcément en prod de toute façon.
Si t'as du Java, t'as du C++.
Oui, voilà.
C'était pas la question, je pense.
Mais nous, ouais, une base de code C++ à nous en prod.
Non, ouais, ça, par contre,
je ne pense pas. Non.
Je sais pas, je me méfie, des fois on a des trucs qui traînent encore en Go ou en Haskell, donc je mange.
Wow.
Ouais, mais c'est pas pareil. Quoi.
C'est ça.
C++, je crois pas. Alors c'est vraiment un truc ancien auquel on touche pas et qui tourne tout seul. Mais
honnêtement, je pense pas.
On a oublié, on a plus de code. Non, ça.
Ok, fine. Et on va passer au dernier lien de la semaine. C'est un
lien de la UI, de la UI.
Exactement. Hubert Sabanier n'est pas là, pensez pour Hubert.
Ça, du coup, je prends la suite. Je savais pas si t'as réussi à faire une transition ou pas, j'aurais été extrêmement surpris que t'y arrives, parce que ça a vraiment rien à voir avec ce qu'on dit.
C'est mort.
Donc, ouais,
des gens qui font de la UI en C++.
Bien sûr. Attends, non, mais en vrai, Arnaud, t'as pas fait ça pour Maker, toi?
C'était du Rust. On est parti sur du Rust. Alors, c'était quand même un challenge hein, de faire une UI en Rust. On aurait pu faire du Qt ou un truc du style, tu vois, qui est en réalité du C++. Mais on est parti sur du Rust.
On a commandé les stickers, c'était du Rust.
On avait le Rust Evangelism Strike Force, mais je crois qu'on a arrêté.
Rust is everywhere.
C'était un peu agressif. Bref, donc du coup, pour revenir à la partie UI, alors c'est pas de la UI, genre dessin UI, etc. C'est vraiment sur un truc très spécifique, c'est sur le choix des couleurs. Et je ne suis pas dev front plus que ça, mais c'est justement en fait l'article qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse même aux gens qui, comme moi et peut-être comme vous, quand ils doivent choisir des couleurs, en l'occurrence c'est plus pour des graphes, mais donc tu as plusieurs couleurs côte à côte pour représenter quelque chose, le choix se fait un peu, bon bah là j'avais du rouge et du vert, j'ai besoin d'une autre, je vais rajouter du bleu, puis après, ouais peut-être du jaune, on verra, au moins il y a une bonne différence et tout, on repère bien. Donc voilà, là l'idée c'est de dire que ça c'est pas la bonne chose à faire. Donc déjà d'une, dire en gros les erreurs qui sont faites, les expliquer et pourquoi c'est pas bien, etc. Et d'expliquer aussi comment faire des bons choix, et finalement montrer que c'est pas si compliqué que ça. Et ça commence entre autres par un outil qui est facilité si vous faites du front. La plupart des gens utilisent le sélecteur pour définir une couleur avec RGB et les trois composants de 0255 ou le code hexa, qui est le même système, pas écrit pareil. Là ce que propose l'auteur, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs, c'est d'utiliser plutôt un système HSB qui peut aussi s'appeler HSV ou HCL, où globalement l'idée c'est que tu choisis ta teinte, après tu choisis la saturation de la couleur et après sa luminosité. Globalement la teinte ça va être justement sur une roue de 0,360 degrés, on va aller du rouge vraiment au max rouge jusqu'à violet, on fait le tour complet, et donc on choisit sa teinte d'abord. Après la saturation, en gros, c'est est-ce que la couleur est vraiment pétante ou pas. Quand la saturation est à zéro, c'est complètement gris, et sinon c'est vraiment la couleur à fond. Et luminosité, c'est entre noir jusqu'au max, en gros, qui a été défini. Et du coup, là, ce qu'encourage la personne, c'est de choisir d'abord un groupe de teintes, et pas éparpiller, au contraire, justement, sur la roue de couleurs, comme là, ce que je donnais dans l'exemple, dire rouge, vert, bleu, qui sont complètement opposés. C'est de prendre un groupe de teintes potentiellement assez proches, éventuellement une qui est complètement à l'opposé, mais vraiment pas éparpillée partout, parce qu'en fait, ça rend pas quelque chose de beau. Et après, de jouer avec la saturation et la luminosité pour avoir quelque chose qui soit visuellement agréable. Et l'article va vraiment très très loin dans les erreurs à éviter, donne des bons exemples et tout, des bons conseils.
Et il explique pourquoi, c'est ça qui est intéressant.
Ouais, voilà, aussi.
Pas juste des choses arbitraires, des règles arbitraires en disant voilà la recette, ils expliquent pourquoi. Elle s'appelle Lisa Charlotte
Frost. Ouais, oui, j'avais un doute, ouais. Et du coup, elle explique le côté, déjà que c'est plus beau visuellement, et aussi ça permet de plus facilement respecter tout ce qui est déficience de perception des couleurs.
Ouais.
Voilà. C'est vraiment très complet comme article.
Notamment, je crois que c'est aux États-Unis qu'il y a c'est au-dessus de 50% des gens, je crois, qui sont. Alors, j'ai pas de traduction française pour le color blindness, enfin le fait de pas percevoir les couleurs correctement.
Je sais pas comment on peut dire. Enfin, ouais, perception des couleurs. Parce
qu'en fait, Mais daltonien, c'est encore autre chose parce que
c'est un truc spécifique.
Color blindness, c'est très répandu et pas trop, il me semble, en Europe. Beaucoup aux États-Unis et donc du coup quand on cible une application pour des clients aux États-Unis, il faut le prendre en compte parce qu'ils peuvent ne pas voir du tout la différence entre deux couleurs. Si on aime bien par exemple faire un site très pastel, il y a de fortes chances qu'il y ait une grande partie des gens qui ne voient pas la différence entre certaines nuances de couleurs.
Carrément. Pour moi, color blindness, c'était vraiment juste l'ensemble de ce qui peut. Enfin, des différents types de défauts de perception.
C'est peut-être ça.
La version des couleurs qui ne correspondent pas à la norme, on va dire.
D'accord.
Pour moi, ça représente l'ensemble, mais je me trompe peut-être.
Ah, mais c'est.
Et oui, après, c'est vrai que nous, en France, on dit daltonisme, mais en vrai, il y a le deutérisme, tri, je ne sais plus quoi. Ah, enfin, et encore, ça, c'est les plus communs, mais il y a vraiment plein de variations.
Le daltonisme, c'est vraiment un particulier.
Ouais, c'est ça. Moi, je sais que j'ai une difficulté de perception du rouge par rapport à une couleur, je crois, mais. C'est extrêmement léger, mais je sais que j'ai un truc. Des fois, je m'en rends compte, mais pas toujours. Je suis même pas vraiment au courant des moments où ça peut être un problème ou pas. Ah, je pense qu'on est beaucoup à avoir des fois des petits trucs comme ça et on le sait pas vraiment.
Tu me fais penser à un prof de génétique comme ça qui nous expliquait le daltonisme et qui nous disait « Oui, moi aussi, j'ai un peu un problème de perception du rouge. » Puis tout le monde le regardait, il avait un truc orange pétant sur le dos. Oui, je crois que oui, en effet.
Là, c'était bon, je ne suis pas en rouge.
Et en le disant, il avait regardé sa veste et il avait rigolé. Donc, je crois que j'ai dû mettre un truc qu'il ne fallait pas aujourd'hui.
Et bien, sur ces bonnes paroles, nous allons clôturer ce message à caractère informatique avec la musique de la semaine. Je suis de 1 à 5, Arnaud de 6 à 10, Pag, tu es de 11 à 15 et Alex de 16 à 20. Et j'ai fait 17. Alexandre Berthaud.
Oh, c'est fou, deuxième fois.
Nice.
Alors du coup, le lien que j'ai mis, c'est une musique de Snarky Puppy. Ce que je voulais mettre, c'est Snarky Puppy en général. En l'occurrence, j'ai trouvé un enregistrement d'une des musiques que je préfère, donc ça tombe vachement bien. Ce qu'ils aiment bien faire, Snarky Puppy, c'est des enregistrements à moitié live, en fait. Donc c'est dans vraiment un studio d'enregistrement et avec un public de 30, 40, 50 personnes. Je crois qu'il y a eu des plus que ça quand même. Mais donc, c'est, par contre, c'est un enregistrement studio, c'est pas un enregistrement live avec la qualité de son pas forcément exceptionnel et les gens qui applaudissent et tout, ça reste enregistrement studio, mais avec quand même des gens présents, c'est un peu leur délire. Et donc c'est un groupe avec beaucoup de musiciens, c'est vraiment un très gros ensemble, on n'est pas sur un groupe de rock avec 4 ou 5 personnes, c'est un très gros truc. Et ils font du jazz, du rock, du funk, un peu tout mélangé, ça va dans des délires des fois un peu curieux, mais c'est vraiment très très bien, et du coup les albums sont quand même assez variés, c'est très très intéressant à écouter, je trouve. Mais c'est vrai que ça va pas forcément plaire à tout le monde, et d'une musique à l'autre, des fois, c'est assez clivant, je pense.
alors, c'est bien.
C'est ça. C'est de l'art, ça fait réagir les gens.
C'est ça.
On aime pas, mais on réagit.
Yes, c'est bien sympa. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous d'être venus, et à la semaine prochaine.
Ciao, merci. Merci.